Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Le président tanzanien John Magufuli, alias le bulldozer, est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques à l'âge de 61 ans, après plus de 5 années à la tête de ce pays d'Afrique de l'Est, connaissant une dérive autoritaire. Monsieur Magufuli avait mystérieusement disparu de la scène publique fin février, alors que des rumeurs persistantes circulaient sur son état de santé, notamment qu'il avait contracté le Covid-19, maladie dont il avait nié initialement l'existence. Arrivé au pouvoir en 2015, il se présentait comme un homme proche du peuple et déterminé à lutter contre la corruption. Si Magufuli a rempli certaines de ses promesses, sa présidence est surtout marquée par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. Après l'hommage de l'État de Côte d'Ivoire et du monde politique, la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars à 56 ans, était célébré par des stars de la musique ivoirienne et africaine dont il était proche lors d'un concert populaire au Grand Stade d'Abidjan mercredi soir. Nous aurons un compte-rendu de notre correspondant Lamine Traoré, présent à Abidjan. Au Sénégal, le parquet de Dakar a remis mercredi devant une chambre criminelle spéciale 5 ans. A requis donc, devant cette chambre, 5 ans de prison contre un jeune Français arrêté au Sénégal et accusé d'avoir voulu rejoindre des djihadistes au combat. Le verdict a été mis en délibéré au 29 avril. Ce procès devant cette chambre spéciale est le premier d'une série d'audiences qui doivent avoir lieu dans les prochaines semaines, dont celui de Maliens soupçonnés d'avoir été en contact avec les auteurs ou les organisateurs de l'attentat de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts, dont des ressortissants européens, en 2016 en Côte d'Ivoire. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a accepté la demande de l'Éthiopie pour une enquête conjointe portant sur les conséquences humanitaires suite au conflit du Tigré, région du nord du pays, a indiqué mercredi un porte-parole de l'ONU. Des résidents du Tigré ont dénoncé auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des journalistes des massacres et des violences sexuelles à grande échelle contre des civils perpétrés par les forces de sécurité dans la région. Des organisations humanitaires ont également affirmé que le système de santé au Tigré a été sérieusement affecté par le conflit et mis en garde contre le risque d'une famine à grande échelle. Les personnes âgées de 65 ans ou plus ont un risque accru d'attraper à nouveau le Covid-19, même si dans l'ensemble, les réinfections restent rares, selon une vaste étude danoise publiée jeudi. L'analyse s'est concentrée sur la souche Covid-19 historique et ne comporte aucune évaluation concernant des variants. L'Agence européenne du médicament rend ce jeudi après-midi son verdict sur le vaccin anti-coronavirus AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays de l'UE en raison de possibles effets secondaires, et ce au moment où le gouvernement français annoncera sa décision de reconfiner ou non les 12 millions d'habitants de Paris et sa région. Pour sa part, l'OMS a recommandé mercredi de continuer à utiliser le vaccin d'AstraZeneca. L'OMS a également préconisé, après l'avoir homologué vendredi, l'administration d'un autre vaccin à vecteur viral, celui du laboratoire américain Johnson & Johnson, même dans les pays où circulent des variants du coronavirus plus contagieux. L'auteur des fusillades dans des salons de massage asiatiques d'Atlanta, en Géorgie, a été inculpé mercredi de meurtre au lendemain de ces attaques qui ont fait 8 morts et semé la peur dans la communauté asiatique des États-Unis. Robert Aaron Long, un homme blanc de 21 ans, a nié tout mobile raciste, se présentant comme un obsédé sexuel, soucieux de supprimer une tentation. Mais les enquêteurs jugent qu'il est trop tôt pour se prononcer sur ces motifs. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. la suite de nos informations. La Côte d'Ivoire a rendu hommage hier au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars. Le président Alassane Ouattara, des chefs d'État africains et des personnalités diverses étaient à la cérémonie retransmise en direct sur la chaîne nationale. Lamine Traoré, notre correspondant, était sur place à Abidjan.
Quartier Le Plateau à Abidjan, le cercueil du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko est couvert par le drapeau ivoirien sur l'esplanade du palais présidentiel. La cérémonie est solennelle et taillée sur mesure, vu les nombreux barrages des forces de sécurité à franchir. Avant d'arriver sur place, aux côtés de Yolande Bakayoko, épouse du Golden Boy, le président Alassane Ouattara, entouré de quelques chefs d'État de la région, dont Roch Kabore du Burkina, Alpha Condé de la Guinée ou encore Nana Akufo-Addo du Ghana. Habillés tous en noir ou blanc pour marquer le deuil, plusieurs centaines de personnalités sont aussi venues pour rendre un dernier hommage à celui que les Ivoiriens avaient surnommé affectueusement Ambak. Il a été décoré à titre posthume de la Grande Croix de l'Ordre National. Sa famille a reçu un drapeau national pour témoigner de son engagement à servir son pays. Au-delà de tout clivage politique, un défilé des différents corps de l'armée a mis fin à la cérémonie. Et dans la soirée et jusqu'à l'aube, de nombreux musiciens ivoiriens et africains lui ont rendu aussi un dernier hommage. Lamine Traoré, Abidjan, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le roi Zoulou a été inhumé hier après des funérailles qui ont rassemblé des milliers de personnes. Ainsi s'achève 50 ans de règne de Goodwill Zwelithini, mort vendredi à 72 ans. Mohamedou Koumfa.
Une pluie s'est abattue sur Nongoma, centre historique de la monarchie Zoulou, ce qui a été rapidement interprété comme un symbole. Des milliers de personnes se sont rassemblées, la plupart en tenue traditionnelle, pour les funérailles du 8e roi Zoulou. En milieu de journée, des centaines d'Amabuto, ces guerriers traditionnels portant des peaux de léopard, armés de lances et boucliers, ont procédé à la levée du corps à la morgue de la petite ville. Des dizaines de jeunes femmes, parées de colliers de perles et les seins nus, ont escorté les hommes sur la route, tour à tour poussant des cris aigus et entonnant des chants funéraires. Certaines brandissaient des drapeaux à l'effigie du monarque. La nuit, sa dépouille a été plantée dans la terre, selon le rite et la croyance en la survivance de l'âme. Seuls des hommes ont été présents à cette cérémonie privée. Un hommage national sera rendu ce jeudi au roi Zoulou, qui de son vivant avait multiplié les messages xénophobes contre les immigrés africains dans le pays. Le nom de son successeur est encore tenu secret. Son fils aîné est lui-même décédé en novembre dernier.
La Russie a annoncé hier avoir appelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Moscou a assuré vouloir éviter la dégradation irréversible des relations avec Washington après des déclarations du président Joe Biden sur son homologue russe Vladimir Poutine. Eric Manirakidza.
Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, l'ambassadeur à Washington, Anatoly Antonov, a été rappelé à Moscou pour des consultations. Pour nous, l'essentiel est de déterminer quels peuvent être les moyens de rectifier les relations russo-américaines qui sont dans un état difficile et que Washington a amené dans une impasse ces dernières années, a poursuivi la diplomatie russe. Moscou assure pour autant vouloir éviter leur dégradation irréversible, disant espérer que les Américains sont conscients des risques. Cette décision intervient quelques heures après des propos du président américain Joe Biden. Il a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur et a promis qu'il en paierait le prix. Dans la foulée, Vyacheslav Volodin, président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a dénoncé ses propos comme une attaque contre la Russie et une insulte envers le peuple russe.
Les sports avec Eric Manirakiza.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. On commence par la Ligue des Champions en Europe. Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant 2-0 hier l'Atlético Madrid, auquel il n'a laissé aucune chance avec une prestation très maîtrisée. Le pressing imposé par les Bleus pendant la majeure partie du match et leur circulation de balles ont totalement étouffé les maigres offensives des Madrilènes. Le seul à ressortir un peu de leur prestation très terne a été Joao Félix, qui a eu toutes les actions dignes de son nom côté Rory Blanco, 39e, 76e, 80e et 91e minute. Chelsea donc retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2014. De son côté, le Bayern, tenant du titre de la Ligue des Champions, a battu 2-1 et éliminé la Lazio sans forcer son talent hier à Munich et arrivera en favori en quart de finale, fort d'une incroyable série de 19 matchs sans défaite dans la compétition reine. Robert Lewandowski a ouvert le score sur pénalty à la 33e minute dans partie longtemps sporifique où les Allemands ont géré leur avance après leur victoire 4-1 à l'aller à Rome. Pendant plus de 70 minutes, les deux gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire. Mais l'entrée en fin de match des remplaçants du Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting, la doublure de Lewandowski, a marqué un beau but à la 73e minute, bien lancé en profondeur par David Alaba. 2-0, marqué par Rolo, a réduit l'écart dans les dernières minutes d'un 1, 82e minute. Qui affrontera qui en quart de finale? Eh bien, le tirage au sort aura lieu demain en Suisse après la fin ce soir des huitièmes de finale de l'Europa League. En Europa League, Zlatan Ibrahimovic en mode retour vers le futur avant de retrouver la sélection suédoise 5 ans après. La star de l'AC Milan devrait aussi être rétablie pour retrouver son ex-club de Manchester United. Aujourd'hui, en huitièmes de finale, retour de Ligue Europa. Concernant l'Euro 2020, l'UEFA ne veut pas d'un euro sans public et ajustera d'ici la fin du mois d'avril son plan initial de prévoyant 12 villes hôtes dans 12 pays si certaines ne peuvent recevoir de spectateurs, a-t-elle annoncé hier. L'instance européenne a donné jusqu'au 7 avril à chaque ville pour soumettre leur scénario et compte trancher au plus tard lors de son comité exécutif le 19 avril, à la veille de son congrès annuel prévu à Montreux. Enfin, basketball, la superstar de la NBA, LeBron James, qui a déjà départ dans le club anglais de football de Liverpool, va également devenir actionnaire minoritaire de la franchise de baseball MLB des Boston Red Sox, rapporte mardi plusieurs médias. LeBron James possède également une société de production cinématographique et audiovisuelle, Spring Hill Entertainment, qui doit distribuer prochainement le film Space Jam 2, dans lequel il joue. Et c'est tout pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Au Tchad, après avoir été reçu par le président Idriss Déby Itno, le docteur Succès Masra, accompagné de quelques membres du bureau exécutif de son parti Les Transformateurs, a animé une conférence à N'Djamena. L'objectif, faire face aux vives critiques sur les réseaux sociaux et aussi l'occasion pour le jeune farouche opposant à M. Déby d'expliquer à sa base les sujets discutés avec ce dernier. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Une conférence de presse qui a pris l'allure d'un meeting puisque les militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège de la dite formation politique pour exiger de leur leader des explications de l'audience qu'il a eue avec le président Déby.
Écoutez, s'il vous plaît, soyez bienveillants avec les journalistes. C'est d'abord pour eux que nous sommes là, pour à travers eux parler au reste des Tchadiens. La liberté. La liberté, c'est la plus belle phrase du monde.
Pour beaucoup, Dr. Succès Mastra a trahi leur conscience à l'exemple de ces militants très en colère.
Moi, j'étais l'ex-policier, mais j'ai donné ma vie pour Mastra. Mais il m'a vraiment déçu. Comment il est parti pour trouver le président sans nous dire non, chez moi, là, je peux dire que c'est une trahison.
Non, c'est pas trahison.
Tous les Tchadiens ne veulent pas des avis parce qu'ils gèrent mal le pays. On a souffert. On va Mastra, mais maintenant Mastra va dessus.
Déception aussi des autres militants indécis qui ont appris la nouvelle sur la toile. Mais après avoir suivi attentivement le compte-rendu de leur leader, ils se disent convaincus pour continuer la lutte.
Toute la nuit, là, j'ai réfléchi à ce qui se passe. Moi, ça va être pas encore là-bas. J'ai pas dormi. Mais apparemment, ce matin, je suis venu pour lui voir une personne pour lui poser la question. Et c'est à tout hasard, c'est moi qui suis tombé sur la conférence. Maintenant, j'ai l'information. Moi, j'ai écouté là. Il n'y a rien de mauvais.
Et c'est sûr et certain que si hier, il nous avait dit qu'il allait voir le président, personne ne l'aurait laissé partir.
Moi, je suis pas choqué. Je connais l'idéologie de mon président. Je suis pas choqué. J'ai confiance qu'il va jamais nous trahir. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir un leader charismatique. Il nous a même juré qu'il ne nous trahirait jamais.
Sans vous mentir, les transformateurs et les présidents, nous ne sommes pas prêts à vendre notre conscience.
Pour le porte-parole du MPS parti au pouvoir, maître Jean-Bernard Padaré, Dr. Succès Mastra n'est pas un ennemi du président de la République et donc il doit le recevoir comme tout autre Tchadien.
Il est notre adversaire. Il ne partage pas notre option politique. C'est son droit le plus absolu. Il a des propositions à faire pour le pays, les bonnes. Si le président de la République estime qu'elle peut faire avancer le pays, eh bien, il les adoptera ou bien il les appliquera. Donc pour moi, justement, il faut qu'on atteigne une certaine maturité politique. Je vois comment il est lynché sur la toile. Je dis, je suis vraiment désolé.
Pour les organisations de la société civile, le fait que le président Déby accepte de rencontrer l'opposant Succès Mastra n'est pas mauvais en soi. Mais ce qu'ils se sont dit qui est important, Sosten Bernoudi coordonne un mouvement citoyen.
Est-ce que Succès va continuer à maintenir sa position en réclamant l'alternance, en réclamant que les élections soient reportées? C'est tout le boulot d'étanglement. Il est vrai, le gouvernement, la présidence ont utilisé les images à leur fin. Mais quand on analyse, Succès a marqué un pas. Beaucoup d'analystes politiques disent si toutes les luttes au Tchad n'aboutissent pas, c'est parce qu'on verse dans le radicalisme.
L'opposant Succès Mastra confirme qu'il va toujours gérer la rue jusqu'à ce que la justice et l'inclusion deviennent la règle. André Godouma Dingar, Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les autorités affirment que la pandémie de coronavirus a entraîné une augmentation massive de la consommation d'alcool et des décès dus à l'alcool frelaté. Les associations de consommateurs ont manifesté lundi, affirmant que les autorités doivent faire plus pour lutter contre la contrefaçon de l'alcool et des médicaments. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Michel Joseph.
Des centaines de personnes sont venues assister lundi à la saisie de ce que les autorités ont présenté comme des faux whisky au marché des ligues Ebzoa à Yaoundé, la capitale. Les responsables du ministère du Commerce, des douanes et de la police se sont tous mobilisés contre les faux alcools pour marquer la journée mondiale des droits des consommateurs. Madame Pauline Biloua est membre du Conseil national des consommateurs, un organisme gouvernemental. Selon elle, le mois dernier, des milliers de bouteilles de fausses boissons alcoolisées ont été saisies dans au moins 200 magasins et 350 bars à travers le pays.
Depuis que le Covid-19 a commencé au Cameroun, beaucoup de gens sont devenus pauvres. Certains vont acheter du whisky frelaté qui coûte très moins cher et qui a des effets négatifs sur leur santé, qui cause des décès de beaucoup d'entre eux. Et je souhaite vraiment que ces gens soient vraiment éduqués sur les effets négatifs que ce whisky peut les apporter.
Parallèlement, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté mardi contre la vente de produits contrefaçons. Delors Magellan Kamzoum Kangin est président de la Ligue nationale des consommateurs. Il dit avoir organisé la manifestation parce que le gouvernement ne fait pas assez pour protéger les consommateurs.
Les consommateurs achètent ce qu'ils voient et ce qui est moins cher. Donc, du coup, ils consomment des produits qui sont contrefaits, qui ne restent pas la norme. C'est une imitation, c'est une copie. Le Camerounais n'est pas assez vigilant pour passer. Il y a naturellement le plaidoyer, il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, et il y a la collecte des informations sur les biens et services dans les marchés. Et est-ce que c'est vraiment...
Le Conseil médical national affirme qu'en 2020, considéré comme l'année du Covid, les trois quarts des 7500 décès dus à des problèmes de foie au Cameroun étaient la conséquence de la consommation d'alcool frelaté. La police affirme que certains produits sont fabriqués à partir d'éthanol pur ou d'alcool acheté ou volé dans les pharmacies et les hôpitaux. Les faux médicaments sont un autre problème. Le gouvernement a fait état de près de 380 personnes mortes des suites d'utilisation de faux médicaments en 2020 contre 223 en 2019. Les chiffres réels sont probablement plus élevés car moins de 30% des malades se rendent dans les hôpitaux. Certains achètent des médicaments vendus sur les trottoirs ou dans les marchés et d'autres préfèrent la médecine traditionnelle. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, dit avoir ordonné une répression sévère de la vente des faux médicaments et alcool.
Il nous faut maintenant remonter la chaîne pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d'approvisionnement et naturellement ce que nous allons faire de façon évidente ici et maintenant, c'est que nous allons tout saisir.
Il a aussi appelé les Camerounais à signaler au poste de police le plus proche toutes les personnes soupçonnées de produire ou de vendre des produits contrefaits. Sera-t-il entendu? Il faudra refaire le point à la prochaine journée mondiale des droits des consommateurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Parlons à présent des élections aux Pays-Bas, ou plutôt de l'observation d'élections en Europe par des Africains. Généralement, c'est l'inverse qui s'est fait. John Lydon a pu joindre à ce sujet Mohamed Ali Ahmed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti, qui séjourne en ce moment aux Pays-Bas, justement en tant qu'observateur électoral.
Un pays du Sud qui s'occupe en fait d'une mission d'observation dans un pays du Nord, c'est une des premières. Et il était temps que le pays du Sud se réveille parce que nous sommes tous, pour commencer, des êtres humains. Et nous avons autant de connaissances que le pays du Nord. Donc aujourd'hui, nous observons, nous allons dans le bureau de vote, nous parlons avec généralement avec le président du bureau et nous posons aussi quelques questions sur les électeurs. Et nous avons constaté des visites, ce déroulement des opérations dans le calme. Il faudra souligner que ces élections législatives, ils ont étalé sur trois jours, donc c'est une situation due au Covid-19. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, nous sommes présents dans les différents bureaux de vote dans les alentours de la ville d'Amsterdam et Amsterdam aussi.
Qu'est-ce que l'Afrique, de manière générale, ou plutôt les pays africains, peuvent tirer comme leçon dans l'organisation des élections et même en termes d'observation des élections?
Nous avons à apprendre des uns et des autres. Pas non seulement le pays du Sud qui va apprendre du pays du Nord, mais le pays du Nord aussi pourra apprendre des pays du Sud. Et là, c'est que nous avons constaté, c'est que les urnes installées dans les différents bureaux de vote ne sont pas transparents, alors que ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, tous les urnes sont transparents. Et ça, c'est des choses que le pays du Nord doit apprendre de l'Afrique. Donc après, c'est que nous avons aussi remarqué que le pays du Nord, généralement, le système électoral est informatisé, ce qui n'est pas le cas dans le pays du Sud, parce que nos populations, généralement, ne sont pas éduqués, les taux d'alphabétisation ne sont pas à 100%, comme dans les pays du Nord. La différence ici, comme la population, c'est une population éduquée, plus ou moins, il y a des bulletins de vote, mais il n'y a pas d'enveloppe. Donc, c'est une grande affiche et sur laquelle les électeurs marquent, sur leur parti, le parti à qui ils doivent voter. Donc, ils marquent juste un croix dans les carrés qui est destiné, qui est passé juste devant le parti politique. Mais chez nous, c'est les couleurs du bulletin de vote qui fait la différence. Donc les électeurs ne sont pas éduqués, ils choisissent la couleur de tel ou tel parti et ils mettent dans une enveloppe et les isoloirs et l'urne, c'est le même système, mais sauf que chez nous, l'urne est transparent et pas dans les pays, pas en Hollande aujourd'hui.
Alors, parlons toujours d'élections et vu ce qui vient de se passer ici aux États-Unis, c'est-à-dire un président sortant qui refuse de reconnaître sa défaite, peut-on espérer dans l'avenir avoir de plus en plus d'observateurs africains lors des élections dans les pays riches?
Oui, il est temps que le pays du Sud se réveille et qu'on arrive à observer les élections parce que les pays du Nord n'ont pas à nous donner des leçons. Parce que on doit apprendre des uns et des autres. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis, Au jour d'aujourd'hui, le candidat donc n'a pas répondu sa défaite. Alors que s'il était un pays du Sud, un pays d'Afrique, donc on aurait dû avoir les journaux internationaux contre nous, mais personne n'en parle parce que c'est un pays du Nord, c'est un pays riche, c'est un pays développé, c'est un pays qui a une grande puissance. Donc il n'y a pas autant de tapage médiatique sur cette question-là.
Mohamed Ali Houmed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'administration Biden entre succès et défi. Le président américain vient de remporter sa première grande victoire législative avec l'adoption d'un vaste plan de relance économique de près de 2000 milliards de dollars. Un plan adopté au Congrès sans le soutien des républicains. Ces derniers, par ailleurs, critiquent le président Biden dans son approche sur l'immigration qui, selon eux, a conduit à une nouvelle crise à la frontière avec le Mexique. Plus de 4000 mineurs non accompagnés sont entre les mains des autorités et le nombre s'accroît au quotidien. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, les législateurs peinent à trouver des solutions à l'afflux de mineurs non accompagnés à la frontière américano-mexicaine. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, fait le point sur cette impasse sur la question migratoire. Le récit est signé Jacques Aristide.
Comme ces enfants migrants détenus dans des tentes à la frontière américano-mexicaine, ils sont environ 4200 mineurs non accompagnés arrivés ces dernières semaines. Les autorités américaines sont débordées, l'administration Biden est sur la défensive. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
We did not expel them.
Nous ne les avons pas expulsés comme l'a fait l'administration Trump. Nous avons accueilli ces enfants et les avons placés sous la garde des services de santé et sociaux jusqu'à ce que nous puissions les confier à un parent.
La récente flambée à la frontière pourrait être due en partie à la perception selon laquelle l'Amérique, sous la nouvelle administration Biden, est désormais plus accueillante pour les demandeurs d'asile. Et maintenant, l'Agence fédérale de gestion des urgences intervient pour aider. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
C'est l'une des étapes qui, selon le président, aiderait, mais elle ne serait pas l'ultime solution. Elle aiderait à accélérer le processus, à garantir que les personnes qui traversent les frontières ont accès aux soins de santé et aux soins médicaux. De toute évidence, les chiffres sont énormes et c'est un grand défi.
Pour des élus républicains qui étaient en tournée à la frontière, le président Biden a aggravé le problème. Ses politiques, d'après certains républicains, permettent à des terroristes présumés d'entrer aux États-Unis. Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants.
La santé de cette nation, la sûreté et la sécurité des Américains et de notre frontière sont le travail du président.
Une solution à long terme aux problèmes migratoires sera encore plus difficile à trouver. Les démocrates de la Chambre des représentants prévoient d'adopter cette semaine des projets de loi qui protégeraient les travailleurs agricoles et empêcheraient de déporter les immigrants sans papier venus enfants aux États-Unis. Deux petites parties du plan de réforme de l'immigration de Biden qui offrirait un statut juridique à la plupart des 11 millions d'immigrants qui vivent dans l'ombre. Bob Menendez, sénateur démocrate.
Cela modernisera notre système, offrira une voie d'accès à la citoyenneté pour ces travailleurs acharnés au sein de nos communautés, réunira les familles et augmentera les possibilités d'immigration légale.
Mais aucune chance pour ce projet de loi d'être adopté au Sénat où les démocrates détiennent une très faible majorité. De nombreux républicains rejettent le texte qu'ils qualifient d'amnistie pour les illégaux. Norm Ornstein de l'American Enterprise Institute.
Il y a des éléments sur le front de l'immigration qui pourraient recevoir un soutien bipartisan. Le programme DACA, qui protège d'une expulsion, est certainement en tête de liste. Il y a eu un large soutien bipartisan pour les Dreamers. Les problèmes les plus épineux concernent la sécurité à la frontière et la citoyenneté pour les personnes qui sont aux États-Unis depuis longtemps.
Les deux projets de loi de la Chambre des représentants seront mis au vote au Sénat le mois prochain.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebouya et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.